Merci, docteur Diarra. La parole maintenant est à Madame Pascale Anka. Et Madame Pascale est anthropologue chercheur à l'Institut des sciences sociales à Amsterdam, l'Université d'Amsterdam. Sa thèse doctorale a porté sur l'anthropologie de la naissance en Inde du Sud. Et depuis 2008, elle s'intéresse principalement au contrôle des naissances et à l'avortement au Cambodge.
Tant que les slides se mettent en place, peut-être que je vais vous dire pourquoi je parle des matrones aujourd'hui. Il se trouve que c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, puisque avant d'être anthropologue, j'étais sage-femme. Et qu'en tant que sage-femme, j'ai travaillé dans des camps de réfugiés pour former des matrones. Et puis après, qu'en tant que directrice de programme, j'ai participé à l'élaboration des formations, puis discuté avec des bailleurs de fonds comment on pouvait faire des formations de matrone. Et puis finalement, lors de ma thèse en Inde du Sud, je me suis à nouveau beaucoup intéressée à ces questions en essayant de voir finalement ce que les outils de l'analyse scientifique pouvaient m'apporter dans cette analyse. C'est le président. Donc le plan de ma présentation est organisé comme cela. Je voudrais d'abord discuter de la disparition des matrones dans la lutte contre la mortalité maternelle, de montrer ensuite pourquoi les formations des matrones sont un échec, puis de repenser le rôle des matrones, et enfin de conclure sur les matrones face au savoir d'autorité. Alors, si on considère la disparition donc de ces matrones, il faut dire, comme on l'a dit hein, plusieurs fois durant ces journées, que les initiatives effectivement pour combattre le fléau de la mortalité maternelle ont été nombreuses. Et puis, avec le présupposé que la biomédecine était capable de prévenir la majorité des morts maternelles, l'une des trois recommandations qui a été formulée en 1987 lors de l'initiative de maternité sans risque était de former les matrones quant aux principes de base en obstétrique et sur la reconnaissance des cas à référer. Pourtant, les formations des matrones dans l'objectif de réduction de la mortalité maternelle sont considérées comme étant désormais un échec. En effet, la persistance des taux élevés de mortalité maternelle, malgré le nombre considérable de formations réalisées durant trois décennies, ont conduit donc des experts de santé publique à revoir leur stratégie, et ceci donc pour trois raisons principales. La première raison, c'est le lien entre la proportion d'accouchements faits par des accoucheurs qualifiés et les taux de mortalité maternelle. Il est en effet documenté que dans tous les pays où les accoucheurs qualifiés sont de plus de 80%, ces pays-là ont un ratio de mortalité maternelle en dessous de 200. Et lors de la session qui a été tenue en 1999 sur la conférence internationale sur le développement, il fut décidé que donc la proportion de l'ensemble des accouchements faits par des accoucheurs qualifiés devait atteindre donc les chiffres hein, donc on a dit 80% en 2005, 85% en 2010 et 90% en 2015. Cet indicateur de santé de la reproduction est aussi donc un indicateur qui a été sélectionné lors des déclarations du millénaire pour l'amélioration de la santé maternelle. Et selon ce schéma, les matrones, donc formées ou non, ne sont plus du tout, apparaissent plus du tout comme des catégories de personnel de santé et qui pourraient être intéressantes pour réduire la mortalité maternelle. La deuxième raison, c'est le problème de la mesure de la réduction de la mortalité maternelle. En effet, cette mesure s'avère depuis longtemps difficile, puisque hormis dans des contextes où il y a un enregistrement rigoureux des cas des décès et de leur étiologie, ce qui est parfois réalisable dans certaines structures, il apparaît que le seul critère valide est la proportion des accouchements faits par des accoucheurs qualifiés. Il nécessite uniquement, dans ce cas, la consultation des registres, des naissances, dans des institutions médicales fréquentées par une population donnée. La troisième raison, c'est que donc ces formations ont été jugées inefficaces. Premièrement, parce que les matrones n'ont ni les moyens ni les ressources de traiter les complications obstétricales, leur formation est donc considérée comme une perte de temps et d'argent. Et certains auteurs avancent aussi qu'investir dans la formation des matrones aurait pour seul effet de retarder, dans les pays dits à ressources limitées, la mise en place de services d'urgence obstétrico-adéquates. Mais pourtant, dans les pays du Sud, et en particulier en zone rurale, la majorité des femmes continuent d'accoucher à domicile avec les matrones. Alors, pourquoi ces formations des matrones sont-elles un échec ? D'une part, il y a des raisons qui ont été évoquées par la santé publique qui sont de deux ordres. D'une part, les matrones n'ont pas la capacité de mettre en œuvre les mesures requises pour la prise en charge des complications obstétricales, par exemple de gérer des dystocies ou des hémorragies de la délivrance à domicile. Deuxièmement, ce qui a été répété, c'est que les formations doivent impérativement s'appuyer sur la mise en place d'un système de référence entre la communauté et les institutions de soins biomédicaux. Mais par ailleurs, donc, les anthropologues ont beaucoup travaillé sur ces questions et ont documenté différentes choses. Les nombreux travaux conduits sur le sujet en sciences sociales offrent en effet des perspectives diverses sur les matrones et sur les systèmes de naissance à domicile dans divers contextes. Sur le plan théorique, ces études, en fait, se sont insérées dans ce que Ginsburg et Rapp ont nommé le boom de l'anthropologie de la naissance des années 80. Ces recherches conduites au sujet des matrones ont eu, d'une part, pour objectif d'ethnographier les pratiques des naissances dans des contextes où la biomédecine était souvent absente et souvent en idéalisant les bienfaits, et ceci effectivement en résonance par rapport à l'hyper-biomédicalisation de l'accouchement réalisée dans les pays du Nord. On ne peut pas rentrer en détail là-dessus, mais il y a beaucoup de choses à dire. Deuxièmement, à une période où de nombreux projets de santé mère-enfant ont émané des institutions des pays du Nord pour être lancés dans des pays du Sud, les anthropologues ont été mandatés par les organisations internationales pour comprendre de mieux tenter la résistance des populations face à certains projets d'innovation et donc ont mis en évidence certaines conséquences de l'ignorance du contexte social et culturel de la naissance. Donc les sujets qui ont été abordés sont d'une part, je ne vais pas détailler, mais les pratiques des matrones dans des contextes géographiques et culturels variés, bien sûr, leur rôle dans la provision des services de soins obstétricaux, la dévaluation du savoir des matrones par les représentants de la biomédecine, ça j'en vais revenir dessus, et ont documenté aussi la question des processus sociaux qui ont conduit à la médicalisation de la naissance et donc à la disparition progressive des matrones dans certains contextes. Par ailleurs, les anthropologues ont aussi documenté les transformations contemporaines des statuts et des savoirs des matrones dans le contexte de biomédicalisation de l'accouchement. C'est un peu pour ça que j'utilise pas, par exemple, le terme d'accoucheuse traditionnelle, qui réduit ces praticiennes de l'accouchement, d'une part, à la tradition, qui serait figée, alors que les pratiques ne sont jamais figées, bien sûr, et d'autre part, à l'accouchement, alors qu'elles font aussi bien d'autres choses que des accouchements. Et donc les chercheurs ont alors soulevé plusieurs questions relatives à la construction du pouvoir biomédical en tant qu'imposition de valeurs normatives autour de la naissance. Ils ont décrit comment la mise en œuvre du modèle biomédical de l'accouchement conduit à des formes coercitives diverses pour les populations concernées et à la subordination des matrones aux représentants biomédicaux. Par exemple, ils ont montré que les échecs des formations des matrones résultaient de l'utilisation de pratiques pédagogiques inappropriées et basées principalement sur des modes d'enseignement didactiques, c'est-à-dire qu'on ne demandait jamais aux matrones ce qu'elles avaient l'habitude de faire, on partait d'emblée sur des cours. Et par exemple, dans ses travaux au Népal, Pig a montré comment ces formations consistaient principalement pour les matrones en l'apprentissage d'un langage, celui des formateurs. Selon Pig, la pédagogie utilisée lors de ces formations où les matrones ne sont pas conviées à s'exprimer au sujet de leur pratique, les conduit à s'approprier un nouveau langage. Ce langage leur permet de parler de ce qu'elles sont supposées faire sans pour autant le mettre en pratique. Par exemple, lorsque j'étais en Inde du Sud où je parlais de ces sujets avec une matrone m'avait expliqué effectivement justement comment elle avait mis correctement en application toutes les pratiques qu'on lui avait apprises et comment maintenant elle prenait des gants à chaque accouchement. Et en poursuivant la discussion, elle m'avait aussi appris que finalement il y avait un de ses gants qui avait été mangé par un corbeau et que depuis elle n'utilisait qu'un gant. Par ailleurs, il n'y avait pas du tout de suivi dans ces formations, donc le matériel n'était pas renouvelé, ce que j'ai pas mentionné ici, mais ce qui est aussi un vrai problème pour la pérennité de ces formations. La deuxième chose qui n'a pas été prise en compte, c'est l'hétérogénéité des pratiques des matrones, puisque finalement, les matrones ne sont pas un groupe homogène et différentes raisons ont conduit des femmes à endosser le rôle de matrone. Par exemple, en Inde, leur caste d'origine, des événements sociaux, un besoin économique. De plus, leur réseau social et les contacts qu'elles ont avec les représentants du système biomédical par le biais de formation ou par le biais de la surveillance de leurs propres activités ont un impact conséquent sur leur méthode. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'effectivement, le présupposé de la santé publique, c'est les matrones, c'est un peu same-same, mais que finalement, c'est but different, puisque ici, on voit, alors, c'est une illustration qui montre une opposition assez extrême entre une matrone au Tchad qui apprend donc à prendre la tension dans un cadre de formation biomédicale, et puis en bas, une matrone en Inde du Sud qui prépare le matériel pour effectuer le rituel du Valai Kapu, qui est un rite de la grossesse au Tamil Nadu. En dehors de ces deux extrêmes, des matrones dans un même pays, dans une même région et même au sein d'un même village n'auront pas non plus les mêmes pratiques. L'autre chose, c'est les difficultés à mettre en œuvre les acquis de la formation, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le manque de pouvoir social des matrones. Certaines matrones ont reçu, par exemple, des formations dont l'objectif était de les amener à accompagner les femmes à l'hôpital lors de l'apparition de complications obstétricales. Ces complications sont facilement identifiables, les saignements pendant l'accouchement, les convulsions, etc. Cependant, des facteurs divers font qu'il est parfois difficile pour les matrones de mettre en œuvre les recommandations apprises. Par exemple, en zone rurale en Inde du Sud, des auteurs ont mis en évidence le manque de pouvoir social des matrones. Ce sont des femmes de basse caste, des femmes pauvres, qui font que leur pouvoir décision est extrêmement limité dans un milieu où les grandes décisions sont principalement prises par les hommes, par exemple. Et puis, dans ces villages, ni les femmes ni les matrones ne choisissaient le lieu de l'accouchement. Les femmes, qu'elles soient hindoues ou musulmanes, riches ou pauvres, accouchaient là où elles vivaient et là où l'enfant était supposé avoir été conçu, c'est-à-dire dans la maison des parents de leur mari. Accoucher dans un autre lieu étant considéré comme particulièrement choquant. L'autre chose, c'est le refus des nouvelles pratiques des matrones, par certes des matrones qui ont été formées dans un milieu biomédical et qui vont modifier leurs pratiques, ce qui ne va pas forcément être apprécié par leur clientèle. Par exemple, au Cambodge, quand on recommande aux femmes de ne plus faire ces pratiques de grillage, qui sont le fait de mettre des cendres très chaudes sous le lit de la parturiente pour faciliter le travail et puis pour bien d'autres raisons liées à la représentation cosmologique, etc. Alors, les autres raisons, ce sont lorsque une matrone qui ne trouve que la pratique apprise ne lui apporte finalement aucun bénéfice. Une matrone qui avait été formée dans la ville de Pondichéry, où je faisais une partie de mon travail, m'affirmait « Mais si je fais comme à l'hôpital, pourquoi les femmes préféraient venir accoucher avec moi ?» Et puis, il y a aussi, bien sûr, ce qui a été noté, c'est le problème de la référence à l'hôpital, des cas compliqués, qui est souvent, finalement, inapplicable pour les raisons de la décision et puis pour les raisons des coûts qui ont été beaucoup évoqués. Et puis, par ailleurs, il y a cette question de l'absence de la reconnaissance des complications obstétricales. Par exemple, en Inde du Sud, l'abondance de saignements est interprétée non pas comme un décollement placentaire ou une rupture utérine, mais comme la preuve de l'éjection du sang impur et du bon travail de la nature. Et pareil, il y a des rétentions placentaires qui sont exprimées comme étant finalement que cette femme est pisanie, elle est avare, elle retient son placenta et c'est un peu pour le manger en cachette, puisque ces femmes en Inde du Sud filles ne mangent jamais avec la famille. Elles mangent toujours après, quand il ne reste plus rien dans la gamelle. Donc du coup, là, à l'accouchement, elle retient son placenta pour le manger tout seul, ce qui serait finalement une forme d'absence de soumission pour une fois à la règle établie. Donc il y a beaucoup de choses à voir autour de ça. Et puis, par ailleurs, il y a toute cette question de la limitation de la qualité des services obstétricaux, comme ça a été évoqué ici, le manque de personnel, d'équipement, d'organisation, et puis aussi les mauvais traitements des femmes lorsqu'elles arrivent à l'hôpital, les insultes, etc. Donc, il faut retenir que ces programmes de formation ont surtout tenté d'homogénéiser les savoirs des matrones afin de les rendre plus conformes aux attentes du système biomédical. Ces activités ont eu pour finalité d'intégrer les matrones dans des systèmes de santé publique afin de pallier effectivement le manque d'infrastructures en zone rurale, mais elles sont souvent basées d'une part sur la promotion des pratiques dites sans risque, le lavage des mains, la section du cordon et la lame de rasoir stérile, l'abandon des pratiques jugées néfastes, mais elles ont souvent déjà pas été pérennes puisque, comme je l'ai dit, le matériel, il n'y avait pas de suivi de matériel et de ces formations. Et puis par ailleurs, elles ont souvent été non liées à la mise en place d'un système de référence des cas d'accouchement difficile vers un centre de santé. Alors, finalement, face à la persistance de la mortalité maternelle, il y a pas mal d'auteurs. Je ne vous ai pas mis la bibliothèque pour ne pas surcharger mes diapos, mais j'ai ici, je peux vous l'envoyer à ceux que ça intéresse, qui commence à nouveau à documenter les pratiques des matrones. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont menées sur l'impact des activités sur certains indicateurs, dont la réduction de la mortalité maternelle. Il y a aussi des travaux qui mettent en doute l'applicabilité de la recommandation de l'OMS relative à la mise en place des skilled births, atteindant des accoucheurs qualifiés. Et par exemple, ce que j'ai observé sur plusieurs terrains en Inde du Sud, mais aussi en Afghanistan, au Pakistan, c'est le problème du recrutement des candidates, puisque ces candidates doivent être recrutées selon, par exemple, un niveau d'études que en zone rurale isolée, les femmes n'ont pas. Et puis, un manque d'intérêt, puisque ces femmes, elles doivent partir loin de chez elles. Ce sont des jeunes filles que les familles ne vont pas être forcément autorisées à partir. Et puis après, il y a un problème de pouvoir de ces jeunes femmes, une fois qu'elles ont fraîchement diplômé, à exercer la pratique des accouchements dans un système où, finalement, une jeune fille non mariée n'est pas censée savoir quoi que ce soit sur ces questions. Donc, ça pose vraiment un problème. Alors, il y a d'autres choses qui sont faites par ailleurs, où les formations des matrones se sont référées et avérées efficaces. Je vais passer vite, c'est sur la prévention des transmissions du VIH, sur la prévention de violences sexuelles, sur la réduction de la mortalité néonatale, en particulier sur la prise en charge de réanimation néonatale, sur la promotion de l'allaitement maternel et en particulier sur la promotion de la tétée immédiate après l'accouchement en prévention de l'hémorragie du postpartum. En ce qui concerne la réduction de la mortalité maternelle en particulier, donc il y a à nouveau des formations sur la prise en charge des accouchements normaux qui prennent en fait effectivement en compte cette question du matériel, du suivi, etc. Sur la détection à temps des complications obstétricales, mais qui est couplée à une orientation opportune de ces femmes vers un niveau de soins supérieur et qui marche à partir du moment où il y a un lien entre les accoucheuses traditionnelles, ces matrones, et les services de soins essentiels. Voilà, et c'est ce qui détermine les formations. Je vais conclure, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais c'est bon, je conclue ça. Alors, je vais sortir un petit peu de l'aspect technique, parce que c'est aussi notre travail en tant qu'anthropologue, c'est de mettre à jour tous les petits riens qui font la vie de chacun, mais c'est aussi parfois de prendre un peu de distance sur un sujet. Alors, je voudrais vous parler du concept de savoir d'autorité, qui est un concept fondateur en anthropologie de la naissance qui a été formulé par Jordan en 1978. Et la construction de ce concept est largement inspirée des travaux de Foucault autour de la notion de biopouvoir qui permet d'analyser comment les techniques spécifiques du pouvoir s'exercent sur les corps des individus et sur l'ensemble d'une population. Le savoir d'autorité donne donc un cadre d'analyse pertinent pour analyser les enjeux en lien avec les formations de matrones. D'une part, ça permet d'approcher le paradigme du développement et les contradictions diverses liées à l'exercice du pouvoir qui fait autorité. Par exemple, on peut souligner les contraintes institutionnelles diverses qui conduisent les dispensateurs de la formation à opter pour certaines modalités de transmission du savoir dont ils savent pertinemment qu'elles ne sont pas adaptées. Par exemple, au Burkina Faso, des formations de matrones étaient réalisées en français à un public qui ne comprenait pas le français dans l'évitabilité de la visite d'un supérieur hiérarchique de cette formation, comme l'expliquaient des formateurs. Ça permet aussi de décrire comment, dans certains cas, des soignants sont contraints par leur hiérarchie à exercer des formes de pouvoir coercitifs sur les femmes et sur les matrones afin d'augmenter les taux de fréquentation en consultation prénatale et en salle d'accouchement avec des systèmes d'amendes mis en place pour les femmes, pour les matrones, si celles-ci ne se conforment pas aux nouvelles règles imposées. Et ça permet aussi d'analyser le discours de décideurs qui témoignent des effets quotidiens, des lourdeurs et des lenteurs administratives auxquelles ils sont soumis, de leur impuissance et de leur obligation face aux bailleurs de fonds, alors que eux-mêmes sur le terrain sont persuadés de la pertinence des formations de matrones. Et ça, il y a des discours là-dessus. Ainsi, les configurations du mandat donné aux matrones par les experts de santé publique sont analysées en partie comme donc le produit de la négociation entre les normes internationales et certaines contraintes des acteurs sur le terrain qu'impose la révision des stratégies. On observe dans quelle mesure le discours produit par la santé publique sur les matrones est sujet à des modifications et à des réorientations en fonction de choix institutionnels divers et de changements de stratégie par rapport à un objectif donné. En plus de ce que j'ai décrit précédemment, une attention doit être portée aux pratiques discursives de la santé publique sur les matrones, par exemple dans des contextes d'émergence de pratiques de nouvelles épidémies infectieuses, face aux éventualités de la crise financière venant altérer les mécanismes actuels de financement d'activités, dont l'objectif est de réduire la mortalité maternelle, mais qui ne seront pas forcément pérennes, ou encore dans des contextes de migration de population ou de guerre, etc., de changement climatique, dans lequel finalement les matrones vont à nouveau continuer d'assurer la plupart des soins. Et donc, l'exercice consiste, comme le formule Margaret Locke, à décentrer et à historiciser le savoir biomédical. Ainsi, on peut observer par le prisme des matrones quand, comment et pourquoi les pratiques médicales dans le domaine de la santé maternelle sont légitimées, parfois ou non, à l'échelle nationale et internationale. En dernier lieu, cela conduit aussi à approcher la construction des idéologies contemporaines autour de la reproduction. Comme l'a proposé Fassin dans un autre contexte, l'étude des discours sur les matrones peut se révéler alors comme un miroir des épreuves locales et des logiques globales qui gouvernent les corps. Ce corpus peut présenter un objet heuristique pertinent pour analyser ce consensus actuel qui fonde la santé des femmes dans leur fonction de reproduction en tant que langage social et qui renvoie à la notion de construction de sens et de principe de légitimité qui sous-tend un choix de priorité. Je vais illustrer si ce n'est pas très clair. C'est-à-dire que, comme nous l'a énoncé tout à l'heure Valérie Raid, on se retrouve dans des systèmes où effectivement on va aider les personnes à avoir un accès gratuit à des soins sans prendre en compte l'ensemble du contexte et des facteurs qui fait qu'ils restent pauvres. Donc ça, c'est un vrai choix de vision du monde, finalement. Donc, selon une autre perspective, il n'est pas inutile de rappeler que la mortalité maternelle est évitable et qu'elle représente un des indicateurs les plus sensibles, d'une part, de l'injustice sociale et d'autre part, du genre. Parce qu'on peut aussi se demander, finalement, si les hommes portaient les grossesses et les accouchements, est-ce que les taux liés à la grossesse et à l'accouchement seraient aussi élevés ? Ceci donc nous invite à interroger la fonction sociale et politique de la santé publique, c'est-à-dire à interroger la fonction des déclarations d'intention et des tentatives d'action en santé maternelle dans des contextes défavorisés, alors que les déterminants même des inégalités qui la conditionnent sont souvent peu appréhendés. Et j'espère qu'on va revenir à une des diapos que nous avait montré Luc de Bernis les premiers jours, où on montrait que l'UNFPA voulait prendre en considération ce lien entre la mortalité maternelle et l'inéquité. Donc je voudrais qu'on rediscute là-dessus tout à l'heure. Voilà, ben écoutez, j'ai terminé. Je voulais vous dire que tout ce que je vous ai raconté, c'est dans ce livre qui va paraître en janvier 2011, qui est un ouvrage collectif qui regroupe 9 contributions de chercheurs et de non-chercheurs et qui est publié avec le concours du WEP. Et voilà, je vous remercie.